Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get out.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez le comptoir du cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui, on est en studio avec les chiens de la critique. J'ai nommé Nathan et Aubry. Bonsoir à vous deux. J'espère que c'est
un... Salut.
J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Il y a un an, on en parlait en off juste avant. On était autour de cette table pour parler de L'Amour Ouf. Et ben pour cet épisode 56, on parle à nouveau, de cinéma français dans la saison 3 du comptoir, puisque Nouvelle Vague était bien un film américain avant les vacances, avec la nouvelle réalisation de Cédric Jiménez, qui avait déjà commis Novembre et Bac Nord. Oui, aujourd'hui, nous évoquons Chien 51, un film qui est un peu le Avengers Endgame des actrices bankable du cinéma français, puisqu'il réunit pas moins que Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Artus, Valeria Brunet-Tedeschi, Romain Duris ou encore Louis Garrel. N'en jetez plus. Adapté d'un roman de Laurent Godet sorti en 2022, visiblement les studios n'ont pas perdu leur temps, Chien 51 est une dystopie qui nous plonge dans un Paris sectorisé non plus en arrondissement mais en zone, en trois zones concentriques, de la zone 1 où vivent les puissants, globalement ça a l'air d'être entre l'île de la Cité et l'île Saint-Louis, à la zone 3, sorte d'amoncellement de barres d'immeubles de banlieue et de bidonville où vivent les laissés pour compte, les opprimés et les exploités. Entre les deux, bah, la zone 2 semble plus favorisée mais ne sert au fond qu'à faire tourner la zone 1. Du fonctionnement de cette ville ou même de ce pays, on ne saura guère plus, hein, ni maire en effet, ni même président de la République ou de quoi que ce soit, mais un ministre de l'Intérieur, bon voilà, joué par Romain Duris, qui, je ne sais pas s'il le fait exprès ou non, adopte un ton assez fielleux qui ressemble par moments à celui de Retailleau. Un ministre de l'Intérieur en effet, puisque comme Novembre et Bac Nord, ce nouveau film de Cédric Jiménez suit des flics du futur, cette fois-ci travaillant en très étroite collaboration avec une intelligence artificielle nommée Alma. Et c'est justement avec Alma, une nuit, que le film commence, puisque la première séquence du film nous montre le violent assassinat par balle de l'inventeur de cette IA dans la cour de son immeuble de zone 1. Les choses s'enchaînent ensuite avec une course-poursuite menée à toute vitesse par Adèle Exarchopoulos, qui joue Salia Malberg, et qui est une inspectrice de la zone 2, qui cherche à interpeller des chauffards, vraisemblablement auteurs du meurtre de l'inventeur d'Alma. Échec total, l'un des deux hommes parvient à s'enfuir et l'autre est sommairement descendu par un drone Alma. Pour mener l'enquête, Samelia Malberg et sa perruque est associée à un flic de la zone 3, Zembrecht, si je vous jure, l'archétype du policier sur le retour, désabusé mais au grand cœur, qui a tout vu mais qui peut être encore surpris, à qui on ne la fait pas mais qui va devoir bosser avec la jeune femme qui lui est supérieure hiérarchiquement et socialement. Enfin là, je suis sûr que vous avez plein d'exemples qui vous viennent en tête, tenez rien que Zootopie, dont la suite sort bientôt. Au fond, c'est un peu la même chose, il y a même des zones, bref, je m'égare. Et globalement, en vous présentant ces deux personnages, je vous ai déjà un peu raconté le film. On est vraiment sur une structure très très classique, et dans un sens tant mieux, vu la vitesse à laquelle va le film, qui ne dure qu'1h40. Ça, on n'est pas trop perdu, mais en même temps, cette vitesse est probablement le plus gros point faible de ce Chien 51. C'est peut-être sur ce point-là que je m'attarderai avant de vous céder la parole, c'est que tout ici paraît précipité, rushé, hein, comme on dit. Les actions se succèdent à une vitesse telle que les personnages eux-mêmes semblent n'en avoir aucune prise sur quoi que ce soit, et au fond, ne découvrent rien par eux-mêmes. Hein. L'enquête se fait sans Zem ni Salia, qui ne doivent compter que sur les révélations que leur font, de temps en temps, des personnages plus ou moins mystérieux, comme ce John Mafram, petit rôle de Louis Garrel, apparemment un militant anti-zonage, accusé, selon les reconstitutions d'Alma, d'être responsable du meurtre du début, ou encore, grâce au médecin Saint-Légiste, interprété pour quelques minutes, hein, par Hugo Bardin, soit la drag queen Paloma, dans le style. Au fond, Jiménez semble vouloir s'inscrire dans une veine de films complotistes, paranoïaques et en même temps dystopiques, sauf que ce sont deux genres qui ont besoin de temps, ce dont le réal s'est privé, volontairement ou non. Car prenons la dystopie par exemple, on pourra revenir sur l'enquête ou le complot plus tard, c'est quelque chose qui requiert un réel effort de world building, comme on dit. de mise en place d'un monde, des conditions de vie des personnages, des réalités très quotidiennes de ce monde, et ça aurait été vraiment intéressant de s'intéresser à ce Paris du futur et de jouer avec des décors assez fous qu'on entrevoit lors des rares plans larges du film, qui est autrement beaucoup trop cadré à la poitrine et, vraiment pas en dessous, et accompagné à toute vitesse des scènes d'action bourrines qui ne donnent pas du tout le temps au décor de s'installer. Et ce, alors même que le roman que ça adapte, et pourtant j'ai pas du tout tendance à en faire un argument pour critiquer un film, l'adaptation, mais là en l'occurrence ce roman est frappant pour son côté, le côté cinématographique de sa description, hein, dans sa présentation par touche, au fil des 300 pages d'une ville qui n'est pas Paris, d'ailleurs, ce qui donne donc à ce film Chien 51 une impression de redite, de film déjà vu ailleurs, déjà connu, en moins bien peut-être, en plus cheap, impression renforcée par un scénario médiocre qui gomme tout l'aspect politique du livre, scénario qui lui aussi va très vite, vous l'aurez compris, qui fait qu'on ne comprend qu'à peine pourquoi le film porte ce titre, qui nous empêche de nous attacher au personnage, mais qui a au moins le mérite de ne pas nous ennuyer du tout, à l'inverse de l'Amourouf hein, qu'on évoquait, et de nous libérer rapidement du multiplex où il est projeté. Enfin bon, vous allez me dire ce que vous avez pensé de cette petite daube au Brie qui en sort, il me semble.
Ouais, bah écoute, moi j'ai passé un très bon moment devant Chien 51, contre toute attente. Pas tant parce que Chien 51 serait une franche réussite, un bon film ou pire encore un film intéressant, mais plus parce que Chien 51 c'est un vrai nanar, et ça c'est rare. Parce que comme tu le disais, L'Amourouf c'était vraiment pas bien, mais en fait c'était surtout vraiment très chiant.
Ça durait 2h40.
Aussi. Là, Chien 51 c'est 1h45. Il se prend pas la tête avec le fait de prendre son temps, comme tu dis. Et surtout, en fait, il se vautre avec un panache qui est assez impressionnant. Et moi, pour le coup, ça me fait rentrer dans le jeu. C'est-à-dire que c'est pas non plus une espèce de moquerie scénique du film ou quoi. C'est vraiment... Je me laisse prendre au jeu. Le film me fait sourire, alors que j'imagine bien que c'est pas le but. Mais voilà, je trouve qu'en fait l'espèce de sincérité avec laquelle Cédric Jiménez se ramasse est presque émouvante. Et comment dire, pour expliquer un petit peu ça, enfin. Moi, je trouve que, par exemple, il y a un énorme défaut au film, c'est que les trois quarts du cast, si ce n'est plus, est complètement à côté de la plaque. Mm-hmm. C'est-à-dire que Adèle Exarchopoulos, que j'aime beaucoup par ailleurs, en fait, dès sa première apparition, j'ai l'impression qu'elle n'est pas dans le bon film. C'est peut-être voulu, tu vois, qu'elle ait cette espèce de ton très robotique, mais le problème, c'est qu'elle le garde tout au long du film, alors que le personnage est précisément en train de se révolter, entre guillemets, de s'humaniser, etc. La mise en scène est, comment dire, audacieuse. On dit beaucoup que Cédric Jiménez apporte une espèce de touche très américaine au thriller, un petit peu musclé, caméra à l'épaule, etc. Au final, on a l'impression de voir, et c'est pas anodin parce qu'on a pu en avoir la rétrospective ces dernières semaines, on a l'impression de voir quelqu'un qui singe ou qui copie ce qu'il a vu de chez Michael Mann, par exemple, sans en saisir l'efficacité, l'intérêt et la justesse. Du coup, on a juste des espèces de mouvements de caméra complètement improbables lors de poursuites ou de trucs comme ça. Un montage qui rend les scènes de poursuite en bagnole au début complètement illisibles. Enfin, j'ai pas compris pourquoi on passait d'une route à l'autre, où étaient les bagnoles.
Et pourquoi d'un coup on passe à ça ? Enfin, ce qui est d'ailleurs une entourloupe du scénario. Enfin, c'est un peu révéler le twist que de le dire, mais d'un coup, il te colle cette course-poursuite sans explication pour te dire ça a un lien logique que ça n'a pas.
C'est ça, et je terminerai sur un point que tu as mentionné aussi, qui est le côté world building. Je ne suis pas non plus pour que chaque film qui fait de la fiction et a fortiori du genre se mette à construire un univers à la Seigneur des Anneaux avec un lore ultra deep. Mais enfin là, le problème, c'est que quand tu fais une dystopie où l'antagoniste, à la base, c'est un ministre de l'Intérieur, mais qu'en fait, on ne voit jamais de gouvernement autour de lui, de président derrière, que tu fais une dystopie qui ne s'applique qu'à Paris et dont on ne parle jamais de la province, alors on en reparlera, mais qu'elle arrive à la fin du film, en fait t'es en mode oui. Mais alors du coup est-ce que le reste de la France est morte, qu'est-ce qui se passe en fait ailleurs, est-ce que ce côté dystopique il est que sur Paris ou pas, et du coup ça fait qu'en fait le film est très 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 superficiel. Et c'est encore un point qui fait qu'en fait, sa chute n'est que d'autant plus belle.
Mais c'est peut-être effectivement sur le ton du second degré qu'il aurait fallu le prendre. Nathan, toi, t'en as pensé quoi de ce chien 51 ?
Bah, déjà, moi, j'ai pas vu les 50 premiers, donc je saurais pas trop. Mais par contre, j'ai vu Zootopie.
Très, très bon.
J'ai vu Zootopie et c'est fou. Mais maintenant que tu le dis, j'y avais pas pensé, mais c'est le même film, c'est incroyable. Enfin, c'est le même plot, en tout cas. Zootopie est bien meilleur. Je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit de négatif, mais je suis aussi d'accord avec... la pointe d'enthousiasme un peu coupable d'Aubry. En fait, c'est-à-dire que je pense que je partais avec très très peu d'attente, contrairement à peut-être plein de gens qui m'en avaient dit énormément de mal, donc aussi je m'attendais pas à grand-chose, mais même indépendamment des avis que j'avais pu entendre, moi je m'attendais vraiment à rien, déjà parce que Bacnor, pour moi, avait déjà révélé... le vrai visage de Cédric Jiménez, et puis parce que j'ai l'impression qu'on commence à se rendre compte en tant que communauté de l'entourloupe de cet entre-soi de la team Lelouch, Exarchopoulos,
de la Chifoumi Production.
Ah ouais, non mais Laurent Sélignac là, ouais, Hugo, partout, ouais,
Hugo Sélignac, insupportable, voilà. Enfin,
mais
dur et désormais
voilà. donc je pense que je m'attendais vraiment à rien. Et du coup, en fait, bah, j'ai pas été déçu et j'ai même plutôt été agréablement surpris, quoi. Enfin, bon, c'est pas bien, je suis d'accord. Moi, je retiens également le côté nanar. Non, mais genre, c'est pas un bon film, mais
on passe un bon moment.
Voilà, en fait je suis pas sorti outré, je suis pas sorti scandalisé, je me suis pas ennuyé à en mourir. Enfin, franchement, c'est à peu près OK, ça passe très vite. Il y a des côtés vraiment sympas, même le côté... alors, je suis complètement d'accord, c'est complètement sous-exploité, mais le très peu qu'on voit du côté zone, le côté dystopique de Paris, le peu qu'on en voit fonctionne assez bien, ça donnerait envie d'en voir plus. Mais effectivement, c'est très bâclé, c'est très rushé. Et en même temps, tu disais que à aucun moment ça se pose, à aucun moment on respire ou quoi. C'est vrai. Mais je crois que j'avais pas forcément envie de me poser devant le film, tu vois. Genre, j'avais envie que ça passe, voilà, et ça va très vite. Et du coup, ça. Ouais, ça rush et du coup, c'est assez OK. Après, je suis d'accord aussi. Enfin, le scénario, quand même, est rempli de trous, mais enfin, c'est assez dingue.
Ah oui, c'est colossal. Hein.
C'est assez hallucinant. Et puis, c'est quand même d'une finesse remarquable, quoi. Enfin, je veux dire, minute 2, on est du côté de Louis Garrel quand même. Enfin, je veux dire,
c'est d'une audace sans nom. Enfin, on reparlera de la toute fin du film, mais
bien sûr. Ouais, non, mais très
extraordinaire.
C'est assez fou. Ouais, effectivement. Mais en fait, c'est assez. Pour revenir sur la question, par exemple, des zones et tout. Mais peut-être que je crois que j'ai. Enfin, comment dire. Je ne l'ai pas pris au sérieux, le film. Et du coup, je n'étais pas en souffrance devant, hein, comme j'étais devant La Mourouf l'année dernière. Mais je crois que je ne sais pas, peut-être parce que j'étais en train de lire le bouquin en même temps. Et donc, je crois que j'avais quelques attentes quand même, que je n'avais pas du tout avant de lire le livre. Mais que, bon, voilà. Ça perd, en tout cas, effectivement, le film perd tout un aspect nostalgique et politique qu'il y avait dans le livre. Et après, j'arrête de parler du livre parce que c'est chiant un peu les critiques quand c'est comme ça. Mais en l'occurrence, Zem, il ne s'appelle pas Brecht, il s'appelle Sparak, qui est la révélation de Sparakos. Parce que le personnage il est grec, ce qui est excessivement important dans toute l'histoire du bouquin, qui ne traite pas du tout d'IA ni même de technologisation à outrance. Bon, au contraire, d'ailleurs, la technologie, il semble en prendre acte sans en faire un enjeu narratif. Puis ce qui intéressait Laurent Godet, c'était la question de la privatisation, puisque la ville où ça se passait, elle était gérée par une entreprise. Et Aubry, tu disais, là, ça se sent qu'en fait, Jiménez, il n'a pas su inventer quoi d'autre plutôt qu'un consortium privé, quoi. Une entreprise qui rachetait des États, dont la Grèce, dont le Bangladesh, etc. Que Jiménez ne veuille pas parler de ça et reprendre la question de la répartition de la ville en zone, pourquoi pas ? Je veux dire, il y aurait une espèce d'oppression uniquement politique, qui était déjà présent chez Godet, mais non. Finalement, lui, ce qui l'intéresse, c'est de prendre un truc ultra, ultra secondaire dans le bouquin, qui était la question de la technologie, etc., et d'en faire le sujet du film, une mise en garde sur l'IA qui pourrait devenir autonome et dangereuse, mais quelque chose qui est vieux, et là, enfin... Ce qui est assez intéressant, c'est que Nathan, tu as vu récemment un autre film d'anticipation français qui fonctionnait sur l'IA qui était Dalloway. Et est-ce que c'était mieux que ça ou est-ce que ça tournait quand même un peu...
Je vais te corriger tout de suite, il ne fonctionnait pas. Voilà. Mais c'était le même postulat. Ouais. Et en fait, moi, c'est là où je voulais en venir aussi, je te rejoins complètement sur ça, que je trouve que politiquement, c'est l'eau tiède, vraiment, oui, mais plus que ça.
C'est un scam complètement dingue.
Parler de l'IA, et, ça doit pas être le... Enfin, je pense que c'est absolument pas le but, en fait, mais bon, tu fais un film sur l'IA, mais Dalloway, c'est exactement le même souci, c'est qu'il ne s'empare à aucun moment de ce sujet politiquement. Ou alors, bon, ça serait révélé le twist que d'aller plus loin, mais genre, c'est vraiment pointer du doigt le danger de l'IA, quoi. Mais
ouais,
vraiment de l'IA.
Mais et... comme tu le disais dans les années 80.
Voilà, c'est...
Enfin, je veux dire, ça ne prend pas du tout acte du fait que l'IA, elle existe déjà et qu'on l'a déjà. Et là, je reprends pour le coup, bon, j'avoue, un article qui était dans Mediapart, qui était écrit par Occitane Lacurie, c'est que ces deux films-là, ils peinent à prendre en compte l'usage actuel de l'IA. Et Aubry et moi, on recommandait, il y a quelques émissions déjà, le film japonais Happy End. Et il montrait justement un usage bien moins tympe à l'œil de l'intelligence artificielle, puisqu'elle y sert en fait un système de surveillance fondé sur la reconnaissance faciale dans un lycée.
C'est les mêmes images, les mêmes images de reconnaissance au visage, etc.
Oui, exactement, mais qui sont les nôtres en fait, qui sont celles de notre réalité. Et le film, il avait rien de futuriste. Et au fond, il était beaucoup plus fort sur les questions de répression de l'IA que en faire une espèce de gros méchant, quelque chose qu'on voit depuis 68 et 2001 Odyssée de l'espace.
C'est
quoi.
Très déresponsabilisant aussi.
Exactement.
Par exemple, le personnage de Duris.
Oui.
Bon,
une chaise de Retailleau
ouais.
Qui d'un coup devient tout mimi.
Mais
tout
voilà,
gentil,
c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui marche pas très bien parce que Duris, je sais pas, j'ai un vrai problème avec lui. Je l'aime beaucoup dans plein de films, mais il joue. J'ai constamment l'impression qu'il joue la feinte ou la duplicité,
oui,
même quand il joue la sincérité, ce qui fait que jusqu'au bout, je croyais pas au twist. C'est très très.
Mais même politiquement, juste pour terminer sur ce que vous avez dit, moi je trouve que même là, c'est ridicule en fait, mais ça en devient drôle. C'est-à-dire que Cédric Jiménez est un type qu'on a plus ou moins rapidement taxé de cinéaste de droite avec ses films du point de vue policier assez musclé, etc. Et là, t'as l'impression que... il s'entête à faire un film de gauche ou un film qui a l'air de gauche. C'est-à-dire que vraiment là, vers la fin du film, il y a une espèce de révolte qui monte, mais t'as l'impression que, il essaye d'être Romain Gavras ou un truc comme ça. Non pas que Romain Gavras soit le paroxysme cinéaste de gauche, mais il se dit oh, j'ai filmé des émeutes, regardez les émeutes, c'est cool. Et en fait, c'est de la pure façade. Même tout ce que pourrait essayer de débaucher le film en tant que positionnement politique, social, qu'on classerait à gauche, en fait, c'est complètement écroulé par ce que dit vraiment le film, à commencer par le personnage de Duris, par le fait qu'il est complètement... Enfin, au début, on le montre comme le grand méchant, mais vu qu'en fait, comme vous le dites, c'est la méchante IA, ça déresponsabilise complètement la classe politique, ce qui fait qu'en fait il y a
et
plus...
même la question des violences policières, parce que si tu la résumes, alors il y a une scène où Artus tabasse quelqu'un, mais bon, t'y crois pas une seconde, parce que comme tu le disais, Artus il fait partie de tous ces comédiens qui sont, que j'aime bien du reste, la plupart de ces comédiens individuellement, mais je veux dire là, qui sont à côté de la plaque, on n'y croit pas une seule seconde, et donc si tu résumes les tueries sommaires des gens à bout portant avec des drones parce que c'est l'IA qui l'a décidé, tu enlèves complètement la question de la volonté humaine qu'il y a derrière les violences policières, pour le coup. Et qui est une question, il y a un rapport qui vient de sortir qui montre qu'elles sont en constante augmentation depuis 24 ans, qui montre que c'est beaucoup plus brûlant que juste de devoir le traiter avec une espèce de sous-hal pour reprendre 2000 ans au lycée d'espace.
Mais surtout, ce que je trouve, encore une fois, complètement raté sur la question des violences policières, c'est-à-dire que, des films ambigus qui prennent pour personnages principaux des flics, dans le genre policier et tout, il y en a plein, c'est l'essence même du cinéma de policier de William Friedkin, sauf que c'est le sujet même du film à ce moment-là, et les personnages sont pas transformés en martyrs christiques à la fin, mort pour la révolution, ça y est quoi. Et surtout, haute tare politique du film qui pour le coup synthétise ce qu'il veut faire et ce qu'il fait vraiment. C'est-à-dire que le film s'ancre par le personnage de Gilles Lelouch dans la zone 3, qui est en gros la zone sociale, les pauvres, les mecs en haillons, que des punks à chiens, ils sont dégueulasses et tout. Alors déjà, bonjour le cliché. Et surtout, c'est symptomatique, mais c'est que tes personnages principaux, c'est Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos, qui sont relativement propres sur eux et surtout qui sont blancs. Parce que tous les personnages issus de minorités, c'est vraiment une fresque de décoration, quoi. C'est pour dire, regardez, on est chez les pauvres, il y a des minorités. Est-ce qu'ils participent à l'action ? Non. Est-ce qu'ils ont un rôle vraiment important ? Non. Et du coup, tu finis par te dire, non pas que... tu peux pas tourner ce genre de ou écrire ce genre de film avec des personnages blancs. Encore une fois, William Friedkin le fait. Le problème, c'est qu'en fait, si à côté tu mets plein de personnages issus de la des minorités, si tu les mets juste dans le décor et en décor, je suis désolé. Enfin, tu vas à contre-courant complet de ce que tu essayes de faire croire que tu fais, quoi. C'est un désastre complet.
Pour continuer et peut-être terminer sur la question politique, etc., moi je voulais revenir, tu parlais de la fin qui envisage la possibilité d'une émeute, et alors là, franchement, si on pouvait reprocher à Une bataille après l'autre de romantiser la révolution, les manifestations, etc.
Pardon Paul Thomas Anderson.
Non mais, Jiménez, il suppose que des gens qui renversent des barricades au ralenti avec des fumées rouges et des cocktails Molotov, c'est ça la fin, quand même. Ça suffira en
sur
plus.
Sur I Wish You Were Here en plus.
Exact.
Ça suffit pas à faire une bonne fin de mettre I Wish You Were Here pendant les 3 dernières minutes.
Sur le visage de Gilles Lelouch pendant 3 minutes.
C'est vrai. Non, mais d'autant que, il croit surtout, il semble sincèrement croire, en tout cas, son film semble nous dire que ça, là, hop, ça réussira à arrêter une surveillance autoritariste en marche. Alors que non, moi, je trouve que, le truc intéressant, ça aurait été de dire que tout ça, le sacrifice de Christ Lelouch, ça aurait été vain. Parce que, évidemment, que dans la vraie vie, et c'est ce que montrait pour le coup Paul Thomas Anderson aussi, sans être complètement désabusé, c'est que les soulèvements, c'est ce que tu avais dit Nathan d'ailleurs quand on avait parlé de Bataille après l'autre, les trucs ils sont réprimés toujours, les gens. Et là, pas du tout. Et effectivement, quand tu disais Aubry qui cherche absolument à se donner une caution de cinéaste de gauche, c'est ça, c'est raté. T'as envie de dire, si tu faisais des bons films en étant taxé de cinéaste de droite, fais des bons films.
Mais c'est ça.
Bon, j'ai pas vu ses autres films. Mais là, en l'occurrence, ça lui réussit pas. Donc peut-être qu'il faut qu'il assume une réputation plus qu'une autre.
Il appelle littéralement son personnage principal Brecht. Donc effectivement,
alors c'est même pas le nom du film.
Il faudrait être un poil plus subtil pour crier je suis de gauche et franchement appeler son personnage principal Brecht pour faire un film aussi bon bref
je pense que Brecht s'est retourné dans sa
aussi déconnecté il se retourne
mais juste un tout dernier point sur cette question politique et sur cette question de minorité aussi parce que pour le coup je dis que j'ai passé un très bon moment devant le film que je veux bien faire l'aveugle face à tous ses défauts ou alors que je les embrasse avec beaucoup de tendresse pour le coup il y a une scène qui m'est restée en travers de la gorge et que je ne pardonne pas à Cédric Jiménez ou aux gens qui ont fait le film globalement
j'espère qu'il nous entend
voilà c'est la scène du club de la boîte de nuit je sais pas comment on peut la qualifier qui est une immondice ni à faire ni à refaire sous aucun prétexte, c'est-à-dire que à un moment, ça tourne mal pour Adèle Exarchopoulos, donc elle va se réfugier dans une boîte de nuit.
En fait, c'est le Love Day, qui est un truc qui est pas expliqué justement, qui fait partie des trucs, qui est une journée en fait, un truc du bouquin.
Une ligne de dialogue.
Exactement. Alors que dans le bouquin, c'est un peu préparé, c'est en fait une espèce de soirée orgiaque, de journée de l'amour, littéralement, en contrepoint et en référence, je pense, à la Minute de la haine de 1984, ici où donc les gens font l'amour en pleine rue, dans le bouquin, pour espèce décharger toutes les tensions du régime autoritaire où ils vivent. Bref, le truc doit vraiment être une espèce de délire, et là, on est sur une espèce de grosse soirée tech dans Paris, avec deux drag kings et du maquillage niveau festive.
Ça, c'est méchant.
Donc, c'est vraiment... Effectivement, ça n'a aucun intérêt.
Mais c'est pire que
ça. Et donc,
ça.
Voilà, vas-y, je t'en
prie, Aubry. C'est encore pire quand, du coup, parce que moi, je ne le savais pas, je ne connaissais pas le bouquin, tu vois. Mais c'est encore pire quand tu sais que, du coup, à la base, c'est un truc vraiment orgiaque, comme tu dis. Parce que ça veut dire que pour lui, l'énorme journée de l'orgie à la American Nightmare, là,
c'est
une soirée queer. Hein. c'est quand même. Enfin, je veux dire. Encore une fois, comment tu fais plus contre ton camp que ce truc-là, en te disant « Non mais regarde, je vais filmer toute une soirée avec plein de gens en drague, avec plein de gens queer, etc. Et en fait, je vais filmer ça, mais comme des monstres, comme une orgie, mais comme un truc ultra réac, quoi. » Et enfin, je veux dire, moi, j'étais là, j'étais en mode « Mais sérieusement ?»
Je pense que c'est ça que Philippe Devilliers a vu lors de la soirée d'ouverture des JO. Il a dû voir ce truc-là sur le pont.
Bah oui, c'est ça. c'est l'esprit de Philippe Devilliers qui s'est emparé de la caméra. Et, Et puis encore une fois, parce que alors on parlait de repompage, hein, mais je parlais de Michael Mann tout à l'heure. La scène de la discothèque, elle est pompée au plan près sur deux scènes de chez Michael Mann qui se passent dans des discothèques, dans Collateral et Miami Vice. Sauf que bon, alors déjà, Michael Mann, il s'en sert pas pour faire un espèce de pamphlet homophobe, involontaire ou pas, je sais pas. Mais c'est-à-dire que là, en fait, le côté Gilles Lelouch exfiltre Adèle Exarchopoulos au milieu des gens qui dansent, ben en fait, les gens qui dansent, à chaque fois que tu les vois, ils ont l'air complètement monstrueux et pas au sens Rocky Horror Picture Show. Et tu te dis, mais attends, mais c'est comme ça que tu représentes les personnages queer dans une dystopie qui se veut de gauche.
Cette scène n'a aucun sens, elle a déjà aucun sens parce qu'en oui. gros, Jiménez, il a gardé du roman en gros que ce qui peut attirer et fixer notre attention, donc globalement, un truc bien tapageur, bien. Excitant, enfin, je veux dire, au sens qui retient notre attention, comme s'il pensait qu'on était vraiment que des TikTok kids à devoir avoir un constamment des stimuli, etc. Et puis, enfin, elle est. C'est vrai, enfin, ces trucs, on peut peut-être parler du coup de ce fait du scénario, et enfin, ce que tu disais, tu parlais d'incohérence et de trous monstrueux. Nathan, c'est que. Enfin, tu dis, elle est mal en point, elle a un énorme ouais. trou dans mais le ventre. on lui a tiré à bout portant quasiment un drone dans le truc, et elle est transportée à travers tout Paris, de la place des petits pères jusqu'à la banlieue hors de. Enfin,
ouais, porte
de
là, plus, porte voilà. De là, ouais.
Et elle s'en sort. Enfin, ce qui devient complètement absurde. Enfin, je sais pas ce que vous, peut-être du scénario, avez à commenter.
Oh non, non, mais tout. En fait, toute la fin.
Ouais. Enfin, on peut en fait, parler. Hein,
toute ouais, la, fait, toute la, l'intrusion, j'ai... l'intrusion de Gilles Lelouch dans la zone 1,
oui.
puis dans le domicile du ministre de l'Intérieur, puis qui arrive à en sortir, puis qui arrive à repartir. Enfin, tout
non,
est.
Ça n'a aucun sens. Juste, il traverse la scène, elle est douce.
Voilà. Et il s'est senti obligé de le faire tirer dessus pour montrer finalement c'est pas si facile quand même. Oui, bah, gars, bah, il vient va. Quand même de faire
oui,
trois allers-retours.
Du, ouais. du coup, tu comprends pas du tout comment, enfin, je veux dire, en termes d'incohérence, il paraît complètement invraisemblable de croire que la thèse de l'assassinat de l'inventeur par John Mafram au tout début, vu comment la zone 1 a priori est surveillée, elle ait pu être commise par quelqu'un d'extérieur à la zone 1. Ou bien alors, c'est qu'ils sont effectivement passés en agent par la scène, mais dans ce cas-là, bah, la zone 1, elle n'est pas du tout surveillée, et du coup, tu n'y crois pas une seconde.
Mais c'est surtout qu'en plus, il entre là-dedans comme dans du beurre.
Ah non, attention, il y a une petite péripétie quand même, il y a une vague qui l'empêche de rentrer la première fois. Ah, attention, suspense à son comble.
Mais, enfin, je veux dire, il y a un déséquilibre total entre la facilité avec laquelle il entre là-dedans, la rapidité de cette scène qui est une espèce. Enfin. Dans l'économie d'un film d'action, tu peux
attends, il a un face-à-face avec un chien. Hein, pour dire,
c'est vrai. J'avais oublié.
Quand même, c'est surveillé, il y a un Doberman.
Et le c'est... Doberman le reconnaît, lui dit, toi 51. Aussi, tu es un klebs. mais je veux dire, dans l'économie d'un film d'action où tu gères les moments de tension comme ça, je veux dire, la scène avec Romain Duris... Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste une énorme éjaculation précoce. Et il n'y a rien contre ça. Mais c'est genre... Ça ne dure pas du tout la bonne durée. C'est genre... Enfin... Non, mais parce que c'est... Oui, oui. C'est Tora qui disait ça sur Man. Okay. Mais comment... Il n'y a rien qui va dans cette scène. On l'a dit tout à l'heure avec le problème derrière de... Ce que raconte politiquement le film, ça se casse la gueule dans tous les sens. Et il visite vraiment Romain Duris en... Pareil, toujours en repompant.
Duris, hein, parce que tu oui. parles déjà que.
Comment dire
C'est très très hétéronormé. Donc il visite la maison de Romain Duris.
Il visite la maison de Romain Duris, ce qui est déjà est pompé sur un nombre incalculable d'autres films d'action américains. On va y arriver.
Vas-y.
Oui, c'est repompé sur un nombre incalculable d'autres films américains. Pardon, oh, c'est nervous breakdown. Ok, c'est repris sur un nombre incalculable d'autres films américains. Et surtout, ça dure deux minutes. Il dit c'est toi le coupable. Romain Duris, il fait non, c'est pas moi. Mais c'est qui? C'est Lia. Ok, je m'en vais. C'est vraiment ça la scène. C'est scandaleux.
Ouais, et puis ça ose ce truc qui devrait être interdit de la révélation in extremis par une vidéo. Envoyé
en plus, oui.
comme si dans un monde où alors, apparemment l'IA est toute puissante, je veux dire, les gens y croyaient immédiatement la première image du ministre qui dit quelque chose d'aussi invraisemblable que ça.
Alma, elle contrôle tout et n'importe quoi, elle a l'identité de tout le monde, elle est pas foutue de stopper un live YouTube. Hein. Là aussi, incohérence quoi.
Non, mais moi je soulignerais juste qu'il y a Julien Pestel dans le film qui fait un petit caméo.
Qui
il fait le présentateur de l'émission là, dont j'ai oublié le nom. Tout le monde veut prendre sa place de la destinée. Voilà. Et, je pense qu'il n'a pas été trop dépaysé parce qu'en fait, moi, si je devais résumer un peu quand même mon avis sur le film, c'est que la raison pour laquelle il m'a pas tant scandalisé aussi, c'est que je l'ai pris comme une vidéo. Enfin, vraiment, pas forcément sur le fond, mais plus sur la forme, enfin le style, la DA un peu. Il y a un côté ouais vidéo YouTube, mais enfin qui serait une bonne vidéo YouTube quoi pour le coup. Et encore, enfin, Spielberg a fait des bien meilleurs courts métrages que ce film. Mais oui, genre c'est vraiment un film ça m'aurait pas surpris de voir directement sortir sur Netflix ou sur n'importe quelle autre plateforme. Et
parce
pas,
que de fait, on a le gros logo Netflix. Au début
absolument. Juste au-dessus du gros logo Lacoste, qui est d'ailleurs partout dans le film sur les énormes panneaux publicitaires, panneaux sur lesquels il y a littéralement des fautes d'orthographe. Enfin, je veux dire,
non, mais oui.
La demi-finale de Destiny, c'est écrit demi D-E-M-I-E. J'ai envie de me foutre en l'air. C'est la seule que j'ai relevée, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres qui aient écrit Lacoste avec un K ou je sais pas.
Non, enfin, mais c'est vrai.
C'est aberrant.
Oui, c'est assez aberrant. C'est
bâclé, il n'y a pas de relecture.
Vraiment,
ça pourrait être.
Pour en faire un produit commercial, commercialisable, facile à vendre, facile à acheter. Et de fait, c'est acheté par le soutien essentiel de Canal+, c'est écrit au début, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc effectivement, bah, puisque le côté vidéo YouTube, ça se ressent aussi dans le côté très très cheapos des décors en dépit.
Où est passé l'argent
parce que on nous vend ça comme le film français
dans
le plus
cher
de l'année.
Dans la peinture de Gilles Lelouch.
Probablement 2 millions d'euros.
Mais qui est au moins plus réussi que la perruque d'Adèle Exarchopoulos parce que enfin pardon. Moi sincèrement, c'est con mais ça m'a vraiment vraiment dérangé, ça m'a sorti du film de regarder le fait que la perruque ne bouge pas alors que tu disais Aubry les courses-poursuites sont continues, hyper exaltées, etc. Le truc ne bouge jamais, ça se voit des kilomètres que se sont passés ses cheveux, mais ça va de pair avec le côté genre bâclé du film. On a parlé du jeu des acteurs ratés d'Artus par exemple, mais c'est aussi donc celui des deux personnages principaux. Je veux dire, moi je crois pas une seconde au flic bourru Gilles Lelouch, enfin pardon, moi je le vois encore dans le film à sketch avec Jean Dujardin. Franchement,
je trouve qu'il s'en sort pas si mal franchement par rapport à aux autres.
Moi c'est le seul que je valide un petit peu.
Enfin moi j'aime bien Gilles Lelouch, mais enfin pardon, mais
tu
moi,
lui as pardonné leurs enfants après eux, maintenant il faut le
dans quelle mesure vous voulez vous attacher au personnage, ou pire, parce que ça il faut qu'on en parle un petit peu, vous intéresser à leur relation, parce que le film attend que tu crois à la romance chelou entre les deux personnages principaux qui se méprisaient une seconde plutôt, mais vraiment Zootopi c'est mieux fait hein, et pourtant c'est un renard et un lapin, mais là en l'occurrence globalement, bon, outre la différence d'âge, enfin le truc un peu chelou quand même de voir ça alors qu'ils auraient pu jouer un daron et sa fille dans d'autres films, là globalement après une partie de ni oui ni non et un karaoké absolument grotesque.
Le karaoké est terrible. En fait,
sur What's Going On,
j'arrivais pas à penser à autre chose que la scène de karaoké dans L'Innocent, qui est une de mes scènes de cinéma préférées des dernières années. Et vraiment, mais je comprends pas. En fait, un karaoké, ce qui est intéressant dans la scène de karaoké, c'est que ça chante pas forcément très bien. Là, ils ont pris des cours de chant pour master la chanson. Ça n'a aucun intérêt.
Mais vraiment. Aucun sens, surtout. Oui. Pourquoi cette chanson? Pourquoi? Si à un moment, t'as une espèce de vague moment émotion où t'entends What's Going On. Non, c'est ça. Il lui fredonne pour qu'elle tienne coup. What's Going On des Four Non-Humans. Et qui est vraiment la question que t'as envie de te poser
mais
à
oui,
ce moment-là.
Mais...
Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que le film prend 3 minutes de pause pour te laisser Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch en cover carafun un peu plus
devant des fonds verts. C'est scandaleux.
Tout ça pour que tu croies au bisou qu'elle lui fait vaguement, mais que tu sens qu'elle a pas si envie que ça de lui faire quand même, hein, l'actrice. Enfin, c'est bizarre et ça fait partie des problèmes de scénario du film.
Surtout,
en fait.
Surtout, enfin, je veux dire, alors, ok, les choses peuvent aller vite, hein, mais on rappelle que une demi-heure plus tôt, le premier face-à-face entre les deux, le premier dialogue, c'est Adèle Exarchopoulos qui lui fait comprendre que c'est vraiment juste un subalterne qu'elle a pas besoin de respecter et tout, et Gilles Lelouch qui conclut, bah, je suis votre clébard, quoi. Littéralement, c'est le dialogue.
C'est le titre du film.
Voilà.
C'est tout ce que vous aurez dessus.
Donc.
Non mais oui, c'est clair. Et puis enfin, je veux dire, le film en fait, et c'est un peu le commentaire facile de faire ça quand un film parle d'une intelligence artificielle, mais là il fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire que l'IA Alma, elle fonctionne en proposant des situations probables, entre, enfin en gros elle dit à la police, bah voilà ce qu'il y a 88%, 90% de se passer, de chances de se passer. La police dit ok, bon bah c'est probablement lui le suspect, il l'arrête, et généralement c'est ça, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait le film semble envisager les situations les plus probables, et il choisit à chaque fois celle qui a la plus haute probabilité d'arriver selon les clichés du genre, c'est-à-dire oh bah le médecin légiste est tué, le chef est pas vraiment, enfin c'est-à-dire que sans jamais chercher à nous surprendre, etc. Et pour continuer sur le scénario, moi la question de l'enquête, je trouve ça à nouveau vraiment dommage qu'elle soit à ce point traitée par-dessus la jambe, alors qu'il y aurait vraiment eu matière à faire quelque chose d'excellent avec tout ça, parce qu'il a de l'or dans les mains, hein. Le bouquin il est pas génial, mais il est vraiment bon pour, enfin, il est cinématographique avec ce côté, enfin le côté problématique que ça peut avoir en termes de littérature. Et là, en gros, moi c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant avec cette idée de faire une intelligence artificielle au cœur d'un truc policier, parce que bon, pourquoi pas. Mais si je prends un grand théoricien du roman policier qui s'appelle Siegfried Krakauer, qui écrit dans les années 20, je vais le citer parce qu'il dit un truc qui est hyper intéressant.
Une pièce dans la tirelire.
Il dit « Il ne s'agit pas de la reproduction fidèle de cette réalité qu'on appelle civilisation, mais bien plutôt et dès le début de l'accentuation du caractère intellectualiste de cette réalité. Les romans policiers présentent au caractère civilisateur une glace déformante, d'où le regard fixement la caricature de sa propre monstruosité. L'image qu'il présente est assez effrayante. Elle montre un état de la société où l'intellect sans attache a conquis sa victoire finale, une coexistence et une confusion purement extérieure des personnes et des choses qui paraissent ternes et déconcertantes parce qu'elles défigurent jusqu'à la caricature la réalité artificiellement éliminée. » Et il écrit ça en 27 ou en 29. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire que alors même que Alma, elle est cette victoire de l'intellect sans attache, etc., qui a un côté effectivement effrayant, elle n'est jamais, jamais traitée avec de l'importance. Ça devient tout d'un coup l'enjeu du film. Alors que elle n'est pas traitée avec, pour générer de la terreur. Elle ne prend jamais ce caractère de rationalité aveugle dont parle Krakauer. Jamais. Elle garde ce qu'on disait au début, une espèce d'interface ludique, voire vidéoludique, que les personnages considèrent comme infaillible, donc l'idée de la rationalité aveugle. Mais en fait, personnellement, en tant que spectateur, je n'ai pas compris pourquoi elle le serait infaillible. C'est-à-dire qu'on nous dit juste, c'est une IA, donc elle est super puissante. Mais c'est-à-dire que moi, je comprends pas précisément pourquoi ils devraient croire ces scénarios probables, ces propositions. Ou alors, il faut vraiment qu'ils soient très très cons, ces flics. Parce que je veux dire, ils mettent un bidule dans la scène du crime. Mmh. Le bidule l'analyse avec des rayons laser façon indestructible, mais c'était mieux fait, et c'était il y a 25 ans. Et après, l'intelligence artificielle te dit, voilà ce qui s'est passé, sans que t'aies prélèvement d'ADN, sans rien du tout. Donc en fait, l'IA, qui doit être terrifiante, elle ne l'est pas. Et ça fait partie de ces nombreux trucs. Et tu voulais peut-être dire un truc, enfin, Aubry, t'avais parlé de la question de la province, de la fin du film, qui est une espèce d'un coup d'échapper à la campagne. On ne sait pas pourquoi. Comment est-ce que le personnage s'y retrouve? Comment est-ce que le personnage de Valeria Bruni-Tedeschi, qui l'a envoyé là pour s'y retrouve? Pourquoi il y a un hôpital? Que font-ils? Pourquoi Louis Garrel s'y trouve?
Tant de questions, si peu de réponses.
Tant de questions, si peu de réponses.
Et enfin, juste pour terminer sur ce que tu disais juste avant, sur le côté caricatural et, infiniment simpliste de certains points du scénario. C'est pareil, juste deux points, du coup. Les checkpoints, on nous vend ça comme le truc ultra important et tout, c'est vraiment des télépéages. Le badge sur la bagnole, tu passes. Il y a un mec qui se fait renvoyer à un moment, c'est tout. Ça n'a pas de conséquences, quoi. L'autre truc, c'est les zones. On nous vend ça comme vraiment le truc dystopique. Alors que c'est vraiment le cliché dystopique. Hein. Ouais. Les mecs, ils ont fait les zones du Pass Navigo en Île-de-France.
J'exagère. Version divergente, quoi.
C'est ça, vrai. Et encore une fois, comme tu dis, la zone 3, c'est les pauvres, ils vivent dans les taudis. La zone 2, c'est les gens. La zone 1, c'est Romain Duris. C'est vraiment c'est scandaleux.
Dans des buildings à la japonaise sur l'île Saint-Louis, quoi. Enfin, je veux dire, question de décor, vraiment, c'est rien. Et puis, film, à nouveau, pardon, mais moi, ça m'énerve trop parce que je trouvais ça génial, l'idée d'imaginer un Paris légèrement anticipée. Ouais. Mais quel est l'intérêt? Pardon.
La scène à, comment dire, sur la passerelle de Bercy à BNF, là. Enfin, je veux dire, j'étais en mode, bah, c'est la BNF de nuit, quoi. Enfin,
oui, bah, il y a un côté, effectivement, dystopique, si on veut.
Oui, complètement.
Mais je veux dire, effectivement, quel est l'intérêt d'un film pareil si tu ne t'attardes pas un minimum dans des décors plutôt que ce que tu dis, ou quelques incursions sur le Pont Neuf, une dans le métro et un fond vert avec le Sacré-Cœur à côté de Building Branded Lacoste.
C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est osé, quand même.
Enfin, je veux dire, c'est marrant parce qu'effectivement, t'as deux endroits qui sont aussi des lieux de nouvelle vague dont on parlait avant les vacances. Ça va donc la place des petits pères où se tient le Love Day et un endroit sur l'île Saint-Louis. Mais le film, il n'en fait rien alors que Linklater, qui est pas parisien, qui est pas français, il parvient vraiment, je trouve, à saisir quelque chose de cette ville, pourtant qui est aussi un fantasme, mais dans le passé cette fois-ci, non pas dans le futur. Il laisse, en fait, Linklater, ses personnages, interagir avec le mobilier urbain, passer du temps à se promener dans la rue, enfin, il y a vraiment tout ça hein, dans Nouvelle Vague, et c'est une des réussites du film. Et pas juste, là, la voir comme le lieu d'une course ou de combat caricaturaux à la Michael Mann, comme tu le disais, Aubry.
Et surtout, enfin, alors, il y a un truc, c'est le paroxysme de la caricature, il y a un plan où, je sais plus, je crois que c'est au moment, peut-être au moment où il découvre la planque de John...
Mafram.
Dont on va parler. mais c'est, du coup, t'as juste un plan où tu vois les fils de bagnole de flics, c'est très sérieux, tu vois, ça pourrait être filmé par Martin Bourboulon, là. Pas le perdu. Et alors, t'as un plan très bizarre où tu vois la file de bagnole sur le périph'. À droite, t'as, je sais pas, des beaux immeubles, un truc comme ça. Et à gauche, ils ont modélisé en 3D un espèce de bidonville, mais dégueulasse, qui est pas fini. C'est scandaleux. Enfin, encore une fois.
Cinématique de PS2. Hein.
Mais vraiment, 42 millions d'euros. Où est passé l'argent? Même Marvel, ils font pas des fraudes comme ça sur les VFX.
Et puis la petite auto-ref à lui-même sur... quand il y a un moment, il y a Tears de Giorgio Moroder, qui était la BO de Back North. Et qu'il arrive à caler sur une scène où le plan pourrait être tiré de Back North. Enfin, vraiment, genre.
Plus bâclé que Back North. Hein.
Bah, ouais, non, bien joué. Non, mais si carrément tu recycles les mêmes plans et la même BO parce que tu veux pas repayer la SACEM, alors que t'as 42 millions d'euros,
c'est un problème. Enfin, et surtout dans un film où tu fais 3 minutes sur What's Going On.
C'est vrai. Peut-être avant de conclure, un mot donc, sur ce personnage de Louis Garrel, caméo, hein, littéralement. Enfin,
ouais,
le mec, il a une parka.
Alors qu'il est troisième au générique. Hein.
Les personnages de Louis Garrel.
C'est vrai, oui. Car Twist.
Absolument.
C'est une armée de Louis Garrel.
Twist, oui. Twist, mais dont le delivery est complètement bâclé aussi. Ah oui. Vraiment, genre.
Ah non, mais c'est.
Incompréhensible, t'es là, tu fais. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Et hop, on est passé à autre chose déjà. Mais enfin. Genre, on est dans Achille Talon.
Oui, mais vraiment, c'est la loi du bidouble. C'est. Oui,
exactement.
C'est ça. Bon.
Et puis, enfin, même, je veux dire. Enfin, alors. Mais dans ce cas-là, faut en discuter avec Cédric Jiménez. Cédric, si tu nous écoutes, mais...
Et on l'espère, voilà. Tu n'as pas arrêté de nous écouter depuis 40 minutes.
Mais, enfin, je veux dire, caster Louis Garrel dans le rôle du gourou révolutionnaire, c'est quand même le sketch de l'année.
Ouais, c'est vrai que...
Enfin, je veux dire...
À la limite, Romain Duris, Reine Animal, Era, était plus fonctionnel que...
Ah ben, complètement.
Ouais, ils sont peut-être gourrés de casting, en
Louis
fait.
Garrel, son dernier rôle, c'est quoi? C'est le roi de France dans Les Trois Mousquetaires?
Bah, ouais, c'est vrai. Hein.
Il va passer du roi de France à... je sais pas comment définir le révolutionnaire, oui, là.
Che Guevara.
Mais... Ouais. Oh, Che Guevara
raté. Enfin,
fond de poubelle. Hein,
bon.
Et puis, oui, juste pour terminer, du coup... La question de la campagne, là.
Oui.
Parce que, alors, la campagne, d'un coup, on te la présente comme le maquis résistant, alors qu'en fait...
Enfin, t'as trois plans sur des arbres, hein. Voilà. Parce qu'après, ouais, juste, tu dois admettre que t'es à la campagne, alors que tu vois plus rien.
C'est, enfin, t'es vraiment Fontainebleau, c'est tout. Hein, c'est... Ouais. Et...
c'est vraiment un forêt de Fontainebleau.
Et comment... Et en fait, tu te dis, mais attends, tu connectes deux neurones. Je vous jure que deux neurones suffisent. Tu connectes deux neurones et tu te dis, mais attends... Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, il suffit de sortir de il suffit de sortir de la banlieue proche pour être à la... Alors, non seulement pour être à la campagne, mais en plus, pour être dans une zone safe. Mais du coup, il se passe quoi en France? Parce que le mec, il est ministre, encore une fois.
Eh ben oui, mais tu prends la ligne R du Transilien et c'est bon. Et après, tu vas dans le sud pour la dernière scène qui est à la mer ou d'un coup,
oui, alors ça,
qui est super moche comme scène. Alors que filmer la mer, normalement, c'est quand même gagner tout de suite que c'est beau.
Ah, c'est
là, t'as l'impression qu'ils n'ont pas mis le luth. Oui, c'est ça. Exactement.
Et puis alors, je veux dire, je sais même pas comment Adèle Exarchopoulos, tu vois, elle a lu la scène. Il y a Jiménez qui lui a dit viens, on tourne ça, et elle a dit banco. Alors, ça,
enfin, c'est sa banque, ouais, qui a dit banco.
Oui, bah, j'imagine.
Enfin bref, ouais, ouais, c'est.
Et en vrai, pour terminer, cette fois, c'est la fin. parce que moi je tiens à terminer sur une note positive quand même, parce qu'on a beaucoup descendu le film, alors qu'en vrai on a passé un bon moment. Moi je tiens à dire qu'il y a, enfin sur la question du film Netflix dont on parlait tout à l'heure, moi il y a un truc qui me réjouit un petit peu aussi, c'est que justement en fait quand on regarde les films de la Jifumi Production là, c'est pas mal des, ou même les films avec ce groupe d'acteurs, etc. C'est pas mal des films qui se prennent très au sérieux, qui en gros se veulent populaires, mais dans le sens, en fait, on va parler à tout le monde, on va être des énormes succès publics, on va se pointer au César en voulant tout rafler, etc.
Moi, il me tarde du ratage des Césars, hein, de ce film.
Voilà.
Enfin, il va même pas être nommé en réalité.
Pas une nomination, hein, je pense.
Ah oui, non, mais je pense.
Mais du coup, pas le coup de L'Amour Ouf.
C'est ça que je trouve bien. Même L'Amour Ouf, tu vois, ça se voulait comme le grand truc populaire,
oui.
Avec Gilles Lelouch qui est en mode je suis pas que acteur, je suis aussi auteur et tout. Ils ont ce côté un peu genre auteurs populaires qui veulent se donner, alors que je trouve que Chien 51, ce qui est bien, c'est qu'en fait entre guillemets ça s'assume comme un pur film de genre et une pure série B, alors complètement raté, mais du coup je trouve que il y a une forme d'humilité qui fait aussi que tu peux prendre le film comment dire, avec le sourire et en même temps avec tendresse, tu vois. Qu'il n'y a pas du tout dans les autres films, on va dire, que tu pourrais rapprocher de ça. Là, ça fait 1h45, c'est du genre, il y a tous les clichés, il y a des acteurs et actrices connus, comment dire, même la mise en scène, ce qui fait la patte de Jiménez est, comment dire, sur-cliché. Et en fait, tu reviens, une bonne série B, un vrai nanar pur et dur. Le seul problème, c'est qu'en fait, un nanar ou une série B, ça ne coûte pas 42 millions d'euros.
Et oui, et c'est sur cette touche plus ou moins positive, une fois n'est pas coutume, qu'on conclut nos débats. C'est l'heure des conseils, évidemment. Aubry, je te laisse ouvrir le bal des recommandations pour la semaine.
Alors, moi, je vais pré-shot une chronique qui arrivera bientôt sur Transistor sur un documentaire qui est sorti juste la semaine avant les vacances. Alors, il y a moyen que, au moment où vous écoutez ce podcast, écoutez le taux, s'il vous plaît, le film ne soit déjà plus en salle parce qu'il a une toute petite distribution. C'est The Neon People de Jean-Baptiste Torret. Comme je dis, il y aura une petite chronique dessus parce que j'ai pu m'entretenir avec Torret au Comédia. On les salue et on les remercie. Mais voilà, le film est vraiment très très intéressant, je trouve, dans son parti pris de filmer donc des sans-abri de Las Vegas qui, truc très étonnant en fait, vivent dans les tunnels sous la ville de Las Vegas. Il y a 800 km de tunnels d'évacuation d'eau sous Las Vegas.
Faut pas prévenir Jiménez, hein.
Ah voilà, non, vraiment pas. Et en fait, ils vont filmer là-dedans à 4 en mode un peu équipe commando, quoi. Et ils font un documentaire excessivement juste, je trouve, et touchant et intéressant dans son dispositif. Justement parce qu'en fait il part avec l'idée en tête d'esthétiser ces gens-là, on pourrait se dire c'est le faux pas ultime du documentaire social, et pourtant là en fait ça fait mouche parce que le film il est pas tourné n'importe où, il est tourné aux États-Unis et encore plus à Las Vegas, qui est quasiment une ville fiction, et le film il prend le parti de dire pourquoi comment dire, tous les grands acteurs du cinéma américain, les grandes stars et tout, ils peuvent être sur le grand écran, et pourquoi en fait des sans-abri a priori anonyme en fait de Las Vegas, lapsus, pourrait pas être des personnages de cinéma à part entière comme les autres. Et je trouve que c'est carrément carrément audacieux comme parti pris, et qu'en fait il s'en sort vachement bien avec ses influences à lui, parce qu'il y va aussi en cinéphile, c'est-à-dire avec en gros plein d'influences, en historien du cinéma, etc., donc avec plein d'influences en tête, Mann, Carpenter, Argento, etc. Et ça marche du feu de Dieu, c'est super intéressant, assez émouvant, et franchement, si vous avez l'occasion de le voir à Lyon, pressez-vous, sinon en région parisienne, tentez votre coup, ça vaut vraiment le regard.
Ou ailleurs en France. Merci beaucoup, oui, Aubry, pour The Neon People de Jean-Baptiste Torret. Nathan ?
Alors moi, c'est vraiment un tout petit conseil, pas un conseil, parce que j'ai pas d'inspiré, parce que c'était les vacances, donc j'ai rien vu, mais... la vidéo de Loris avec Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch est très rigolote. Voilà. Donc,
très
et elle vaut beaucoup plus le coup que Chien 51. Elle dure aussi longtemps, mais vous pouvez la regarder chez vous. Donc, voilà.
Et bah parfait, si vous voulez ou bien économiser de l'argent ou bien restaurer votre image de cet acteur et de cette actrice, n'hésitez pas. Et pour ma part, Mon conseil, c'est que hier, puisqu'on enregistre aujourd'hui le lundi 3 novembre, c'était les 50 ans de l'assassinat de Pier Paolo Pasolini. Donc en lien avec cette mort toujours pas complètement élucidée, l'enquête vient d'être rouverte. Mon conseil, c'est de voir ou de revoir, de lire ou de relire des livres, des films, des essais. Sa pensée politique est vraiment très riche et très complexe, et on peut être complètement en désaccord, mais en même temps trouver ça hyper intelligent. Donc de cet immense écrivain et réalisateur italien, on a déjà cité en conseil ici au comptoir, pour ma part, le scénario non réalisé du Saint-Paul. Nathan avait recommandé les courts-métrages Que sont les nuages. Et personnellement, je vous recommanderais donc très chaudement le dernier film de lui que j'ai vu, qui est un court-métrage tiré du film à sketch Rogopag. Donc ce court-métrage à lui s'appelle La Ricotta, et qui nous montre un metteur en scène incarné par Orson Welles qui cherche à tourner une scène de crucifixion du Christ, mais qui en est empêché par des figurants trop portés sur la nourriture, des journalistes médiocres ou des acteurs capricieux. C'est très drôle, donc c'est très intelligent et c'est très beau. Bref, c'est du Pasolini. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci beaucoup à tous les deux, Aubry et Nathan, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine avec encore du cinéma français. Ce sera le cas jusqu'à la fin du mois de novembre. Il y a du lourd qui arrive. Avec cette fois-ci la petite dernière de Afsia Herzi. Comme d'habitude, ce sera disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous. Et puis si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Vive le cinéma.